à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Je reçois aujourd'hui pour une série d'émissions un philosophe, Robert Redeker. Robert Redeker, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence, radio à laquelle je suis assez fidèle.
Ben merci de nous écouter et merci surtout de venir nous faire profiter de vos lumières de philosophe parce qu'on est dans un monde compliqué et on a bien besoin de quelques éclairages. Alors je tiens à dire avant de qu'on commence nos débats que Robert Redeker a exercé son métier de philosophe toute sa vie, il a 69 ans. Il a des enfants et des petits-enfants, 3 enfants, 4 petits-enfants, donc il y a une vraie filiation. Il habite en Ariège. Et c'est un peu, dans mon esprit, mais je crois dans le sien, il ne renie pas, un philosophe à la Gustave Thibon, c'est-à-dire un philosophe chrétien, engagé, qui n'a pas peur de l'affirmer. C'est pas toujours facile dans nos métiers d'universitaire ou d'enseignant-chercheur. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, 25 je crois.
À peu près. Alors là, je voulais répondre comme Montaigne, qui ne savait pas combien il avait d'enfants. 2 ou 3, je ne sais pas. Je crois que c'est autour de 25, mais je ne les ai pas comptés.
Donc, on va dire de très nombreux ouvrages, parce que 25 ouvrages, ça veut dire grosso modo un par an depuis que vous êtes dans ce métier. Et il faut dire que vos ouvrages ont connu énormément de succès. Ils ont été traduits dans de nombreuses langues, dans plusieurs langues, dans de nombreux pays. Il y a même un de vos ouvrages qui a été traduit en arabe au Maroc, c'est bien ça?
Tout récemment, c'est « La guerre des Léviathans ».
La guerre des Léviathans. C'est pour dire le succès de la richesse de votre pensée, parce que c'est pas Robert Redeker en tant que individu, c'est la pensée de Robert Redeker qui est appréciée. Il y a même eu des critiques faites au Vatican fort élogieuses, dont une, je crois, au sujet du livre L'éclipse de la mort, c'est ça, qui a été faite par Monseigneur
Ravasi.
Donc même le Vatican vous lit, donc c'est dire l'intérêt que, et vraiment la chance qu'on a de vous avoir avec nous pour
cette... Disons que dans les livres, l'on essaie, enfin, tous les auteurs essaient de mettre des propositions de pensée. Voilà. Pas, l'époque, l'heure des maîtres penseurs ou des maîtres à penser est heureusement révolue.
Est un peu révolue.
Heureusement derrière nous. Mais l'on doit essayer de travailler. Bon, de façon à la fois rigoureuse et inventive, pour donner des propositions de pensée. C'est-à-dire ouvrir des chemins.
Des clés de lecture qui permettent effectivement d'ouvrir des chemins dans un monde complexe, un monde global. C'est vrai que la caractéristique de notre... de nos générations, parce qu'on peut inclure évidemment celle de nos parents, c'est-à-dire de la génération du XXe et du XXIe siècle, c'est la globalisation des problèmes, la globalisation du monde. Et c'est vrai que du coup, ça accroît beaucoup la complexité de lecture et l'apport des philosophes est extrêmement important de ce point de vue, évidemment. Donc, je voudrais d'abord que vous nous parliez dans ce premier entretien des raisons qui vous ont amené à publier aux éditions du CERF en mars ou avril, je crois que c'était mars 2023, c'est-à-dire il y a 6-7 mois, qui vous ont amené à publier ce très bel ouvrage, très facile d'abord, facile à lire, mais très très riche, et qu'on prend et reprend. Moi, j'ai passé une partie de l'été dessus, je ne vous cache pas, parce que j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, et qui s'appelle « L'abolition de l'âme ». Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui vous a mené?
J'ai l'habitude, depuis mon adolescence, de lire les philosophes, les théologiens, les poètes. Et je me suis rendu compte qu'un mot était devenu très très rare, mot qui était très fréquent jusqu'au milieu du XXe siècle, le mot âme. Le mot âme était peut-être le mot le plus important de la philosophie, mais dans la théologie et dans la poésie également, sans doute dans la vie quotidienne, la préoccupation de l'âme. Je crois que dans le livre, je cite l'Angélus de Millet,
on voit ces deux paysans
très modestes,
au milieu d'un champ,
mais qui ont un souci de leur âme. Voilà. Alors c'est quelque chose. Le mot a disparu. Il n'est plus employé, plus même dans la vie quotidienne. Enfin, si vous parlez du souci de l'âme, on va regarder de travers. On va dire, mais de quoi parle-t-il ce monsieur ? Or c'était très fréquent, très très commun. Donc la question c'est que s'est-il passé pour que ce mot ait à la fois disparu de la culture, soit même devenu plus ou moins tabou dans la culture.
A été ringardisé.
Ringardisé dans les milieux universitaires par les dames.
Enfin, oui, non, ça, effectivement, les gens vous regarderaient de travers.
Vous avez fumé la moquette, monsieur, quelque chose comme ça. Et dans la vie matérielle elle-même, alors que c'était quelque chose qui était possible avec nos arrière-grands-parents. Avec nos arrière-grands-parents, on pouvait parler du souci que nous avions pour la destinée de notre âme après le trépas. Aujourd'hui, non, ce n'est plus possible. Donc, que s'est-il passé ? D'autant plus qu'il me semble, peut-être me suis-je trompé, mais d'autant plus qu'il me semble que c'est quelque chose d'assez singulier dans l'histoire, d'être dans une société dont le mot qui désigne une entité extra-matérielle a complètement disparu. Alors, c'est le premier point, mais il y en a également un second, c'est que finalement le contexte intellectuel dans lequel ce mot existait est quand même ce qui a fondé notre civilisation. L'âme, puis on sera amené à parler de Dieu, le souci de l'âme, le souci des réalités extra-matérielles, ça a fondé notre civilisation. Voilà. Ce n'est pas rien, le mot âme. Et hop, ça a disparu. Alors la civilisation, ou notre civilisation, peut-elle continuer si ce mot-là et ce souci-là ont disparu? Voilà. J'espère que j'ai été clair et synthétique.
Oui, non, on comprend vos raisons et on voit en même temps tout l'intérêt, parce que c'est une vraie question. Et je repense à ce que disait, son nom m'échappe, mais en disant le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas.
C'était Malraux. Oui.
Et donc, au fond, l'âme, c'est l'expression de la transcendance, de ce qui dépasse le matériel et qui est propre, effectivement, à notre civilisation judéo-chrétienne, qui nous a particulièrement amené à réfléchir là-dessus. Et si le 21e siècle, au fond, fait disparaître cette notion, ce concept, on peut imaginer qu'il court à sa perte. Mais alors ça m'amène à vous poser une seconde question. À travers votre ouvrage, vous dites à plusieurs reprises que c'est quand même propre à notre civilisation, cette abolition de l'âme. Et effectivement, si on regarde du côté des matérialistes chinois, on a le sentiment qu'ils sont complètement revenus en arrière de la période de Mao. Du côté des musulmans, c'est vrai ça, c'est le constat que vous faites?
Oui, alors parfois je me pose la question. Alors c'est certes sous des formes très, très, très polémique et même parfois violente que l'islam revient au cœur de l'actualité. Mais je me pose la question, n'y a-t-il pas derrière une action de la Providence et n'est-ce pas à travers les autres aires civilisationnelles qui nous bousculent,
Parler de l'Inde aussi.
Voilà, ouais. L'Inde aussi qui nous attrape par le col. Et tout ce contexte-là ne va-t-il pas nous contraindre à nous poser la question sur le sens spirituel de notre civilisation? Donc, n'est-ce pas finalement une parenthèse dans laquelle nous sommes plongés, et tout le monde sait très bien que la Providence prend parfois des chemins très, très étranges pour arriver à ses fins.
Oui, c'est vrai que la parenthèse est ouverte quand on regarde quand même notre civilisation, qu'on peut à minima faire remonter à plus de 2000 ans, mais dont on trouve les racines aussi en Égypte il y a déjà 6000 ans. Donc quand on regarde ça, on se dit que c'est quand même le début d'une histoire complètement athée des choses, et on peut espérer que ce ne soit qu'une parenthèse, ou alors ça sera la fin. Comme le prédisait Malraux.
Vous savez, l'on dit souvent que c'est la religion qui est une illusion ou un opium. Je suis persuadé que ce qui est une illusion, c'est l'athéisme.
Voilà. Et bien sur cette belle parole, Monsieur Decker, on va malheureusement s'arrêter pour ce premier entretien, mais j'ai annoncé une série, il y en aura 3 autres. Donc merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter votre ouvrage, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour écouter le deuxième volet de notre entretien.